силовой вибратор «Суперсоник».
Фантастика.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission des Récits et des Ondes. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'un volet, le conte miroir de nos origines, on a le plaisir, Michel et moi, d'avoir comme invité Khaled El Nahana, qui va justement nous parler un peu de son parcours.
Alors Roxane, je propose qu'avant de commencer l'émission, il y avait une information quand même très importante qui est tombée à l'international et même, disons, même au niveau mondial. C'est un podcast belge qui s'appelle « J'ai tant rêvé de toi » qui a reçu un prix à New York. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ?
Merci beaucoup. Oui, c'est la fiction autour du poète Robert Desnos, qui a reçu le trophée de bronze dans la catégorie meilleure fiction radio au New York Radio Awards, avec une mention spéciale à Monique Michel comme meilleure interprète dans une fiction radio. Et donc voilà, la fiction, si vous avez envie de l'écouter cet été, elle est disponible sur Radio La, qui est le site où on retrouve des fictions ou des documentaires radio belges. Et c'est sur radiola.be, vous tapez « J'ai tant rêvé de toi » et ce serait un plaisir de savoir que vous écoutez la voix du poète Hippocampe.
Mes grands merci. Eh bien, revenons à notre conte miroir de nos origines. Eh bien, bonjour. Et est-ce que, pour commencer, donc tu es d'origine palestinienne, mais tu es né au Liban, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Commencer peut-être par nous raconter... peut-être pas toute ton histoire familiale, mais où tu as vécu au Liban et tu es arrivé en Belgique en 2022, je pense, hein, c'est ça ?
Oui. C'est exactement ça. Moi, je suis né au Liban, mon père aussi. Et en fait, mon grand-père, après avoir été expulsé de la Palestine, il s'est réfugié au Liban. Au Liban, mon père est né, moi aussi, mes enfants aussi. Mais bon... On ne va pas parler de ce qui s'est passé, mais pour chercher un bel avenir pour mes enfants, j'ai décidé de venir ici en Belgique. Et je suis arrivé en 2022 avec toute la famille.
Mm-hmm. La ville d'origine de ton grand-père en Palestine, c'était ?
C'était Jaffa.
Jaffa, oui. Dont on va parler tout à l'heure à propos d'un spectacle. Et au Liban, tu vivais dans quel... À Beyrouth ?
J'étais à la capitale, oui,
c'est ça,
à Beyrouth.
C'est ça, oui. Et comment est-ce que tu es arrivé là, au conte et au travail de conteur et est-ce que tu avais dans la tradition familiale ou bien c'est quelque chose que tu as rencontré autrement ?
Moi, je ne savais pas que j'avais... j'avais cette compétence ou ce talent. En 2007, j'étais au Liban et il y avait un conteur libanais français qui organisait une formation de conte. Et moi, je voulais m'inscrire parce que j'étais intéressé par le théâtre, par l'art et tout. J'étais à l'époque un prof. Et le conteur, c'était Jihad Darwish. Mm-hmm. Quand on a commencé la formation, il a demandé à chaque participant de raconter une histoire. Et moi, je dis, moi, je ne connais pas d'histoire. Donc, j'ai jamais raconté d'histoire, j'ai jamais écouté des histoires. Donc, il m'a dit, tu te mets à côté, tu as le temps, tu prends le temps, tu essayes de réfléchir. Et après, tu viens une demi-heure après. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et une demi-heure après, j'ai commencé à avoir quelques bouts d'une histoire qui n'était pas cohérente. Et je l'ai racontée. Et au bout de 3 jours, je me suis rappelé plusieurs histoires, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mes parents qui a raconté ces histoires, parce que je ne sais pas, je me rappelais plus. On m'a raconté que pendant la guerre civile au Liban, les enfants faisaient beaucoup de bruit et les adultes étaient très nerveux. Donc, mon oncle... prenait les enfants et on se mettait à côté, ils nous racontaient des histoires pour nous calmer. Et ça, j'ai complètement oublié parce que c'était lié à la guerre. Donc, du coup, j'avais envie de supprimer tout ce qui avait un lien avec la guerre. Et là, je me suis rendu compte de la force de l'histoire, que 20 ans après, j'avais toujours ces histoires cachées quelque part dans la mémoire, dans les cerveaux. Et j'ai décidé de devenir conteur et de raconter ces histoires, surtout que Jihad m'a beaucoup encouragé. Et voilà, donc depuis 2007, je racontais des histoires en arabe, de 2007 jusqu'à 2022, quand je suis arrivé en Belgique. Et là, du coup, j'étais obligé de changer tout mon répertoire pour que je puisse raconter en français. Et c'était pas facile.
Quand tu dis de changer tout ton répertoire, tu veux dire le traduire en français ou...
Oui et non. En fait, surtout en arabe, les contes ou les histoires que j'ai racontées, c'était du patrimoine arabe et parfois ça rime. Et le problème, que si je raconte ça en français, ça n'a pas de sens. Et surtout, il y a non seulement quand ça rime, il y a aussi tout ce qui est culturel. Ben, si je raconte à un Belge, je donne un exemple facile. Au Liban, il y a une chanson qui dit c'est possible de pleuvoir en août, mais c'est impossible que je cesse de t'aimer. Ça veut dire que c'est impossible. Tandis que si je raconte ça ici en Belgique, oui, mais il pleut en août, ben, ça n'a pas de sens. Donc, c'est toujours lié à la culture. Donc, il faut toujours trouver l'alternative. Donc, ce que j'ai fait, il y a une partie de conte que j'ai pas pu malheureusement raconter, mais il y a d'autres parties que j'ai pu un petit peu modifier et adapter pour que ça soit convenable et que je puisse raconter ici en Belgique.
Alors, Jihad Darwish, on le connaît relativement bien ici en Europe aussi, puisqu'il raconte pas mal. C'était un très grand conteur. Et d'ailleurs, c'est toute une famille aussi, hein, parce qu'il y a ses filles aussi qui racontent.
Oui, la joie est là. Et là.
Et donc voilà. Et tu as raconté au Liban, est-ce qu'il y avait des lieux pour raconter ou comment ça se passait?
Au Liban, de 2007 jusqu'à 2022, je vais raconter, il y avait des festivals de contes au Liban. Donc, j'ai raconté là-bas, j'ai raconté dans les écoles, dans les centres culturels, dans les soirées. Et aussi, j'ai fait des formations, des scouts, des formations des animateurs qui étaient intéressés par le conte. Et quand j'étais au Liban aussi, j'ai un peu voyagé. Donc, j'ai raconté dans les pays arabes, dans les pays du Golfe, Maroc, Algérie, Jordanie.
Et quand tu participes à des festivals, tu pourrais dire que la tradition de conteur-conteuse est encore très vivante au Liban et aux alentours.
Bah, au Liban, c'était bien présent jusqu'au début de la guerre civile dans les années de 70. Mais ça a repris grâce à Jihad, dont on a parlé, parce qu'il a créé un festival de contes. Ça s'appelait à l'époque le Festival international de contes et de monodrames. Et dans ce festival, il a invité des conteurs du monde entier. Et c'était l'idée. C'était en partenariat avec l'ambassade de France. Mais c'était toujours des conteurs français. Mais quand Jihad a commencé de former des conteurs locaux, il a intégré aussi des conteurs locaux. Donc, il organisait par exemple trois soirées avec les conteurs francophones et une soirée avec les conteurs arabophones. Et après, il y avait d'autres festivals qui sont nés à gauche, à droite, au Liban.
Juste une petite remarque, le monodrame, c'est quoi?
Bah, c'était le nom du festival.
Je pensais que c'était un genre que je ne connaissais pas.
Non, 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 c'était le nom du festival.
D'accord.
Mais petit à petit, bah, mais c'était toujours des conteurs qui étaient invités. Mais moi, j'ai juste dit le nom du festival.
D'accord.
Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé en Belgique pour petit à petit retrouver le lien avec le monde du conte et rebâtir un répertoire?
En fait, c'était vraiment par hasard. Parce que quand je suis arrivé en Belgique, les jours de mon arrivée, j'ai reçu un mail. Dans le mail, j'étais invité. Enfin, J'ai dit le texte de mail. Bonjour Khaled, je suis Apollinaire et je suis le directeur artistique d'un festival et j'ai le plaisir de t'inviter à mon festival. Et moi je dis, je viens d'arriver en Belgique, personne ne me connaît, comment ça se passe, je ne sais pas quoi. Et j'ai appelé Apollinaire qui m'a dit, je t'ai vu sur Facebook et je suis intéressé de t'inviter ici en Belgique. Je dis, je suis déjà en Belgique. Donc, le hasard a fait que le premier jour de mon arrivée en Belgique, j'étais déjà invité à un festival de contes.
Waouh.
Et après, il y avait Jihad qui a envoyé un mail à quelques conteurs ici en Belgique en disant que j'arrive en Belgique, que je ne connais pas le milieu de contes et que j'ai besoin de l'aide. Un de ces conteurs, conteuses, était Sophie Clairfaï. Et Sophie, elle a dit, mais Khaled, moi je connais Khaled. Je dis, Sophie, comment elle me connaît? Oui. Après, je me suis rappelé qu'on s'est rencontrés au Liban en 2017, dans le festival de contes. Elle était une des invitées, une des conteuses francophones qui ont participé à ce festival. Et après, j'ai rencontré Sophie et petit à petit, elle m'a ouvert beaucoup de portes et elle m'a beaucoup aidée.
Oui, d'ailleurs, il y a ton nouveau spectacle dans lequel elle a joué un rôle, je pense.
Oui,
comme l'amitié, ce beau périple, c'est ça.
Ah, je pensais à l'autre dans lequel...
Ah oui, pardon.
Le parfum de l'orange.
Oui. Je pense qu'elle a été marraine, bonne fée, regard artistique.
Oui, et moi je ne comptais pas. En fait, moi j'avais un spectacle que je racontais en arabe, inspiré des enregistrements de mon grand-père, des paroles de mon grand-père. Et j'étais invité par Conte en balade. Donc, je fais le spectacle. J'ai traduit un peu de l'arabe en français. Et je fais le spectacle. Et quand j'ai joué, Sophie, elle m'a dit, mais il faut vraiment travailler ce spectacle. Et je lui ai dit, oui, mais comment? Elle m'a dit, tu demandes une aide à la création. Et dans ma tête, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne, moi, j'étais réfugié au Liban. Et réfugié au Liban, je n'avais aucun droit. Donc, je n'avais pas le droit d'acheter une maison, pas le droit de travailler, pas le droit d'avoir la nationalité. Et je dis à Sophie, mais moi, je viens d'arriver, je ne peux pas faire une aide à la création. Elle m'a dit, mais toi, tu as déjà un titre de séjour. Je dis, oui, mais c'est temporaire. Je dis, oui, mais ça ne pose pas de problème, tu peux. Donc, je ne comprenais pas. Après, je lui ai dit, mais peut-être je trouve personne pour m'aider, pour m'inviter, pour me faire une lettre, pour me soutenir et tout. Elle me dit, tu n'as qu'à essayer. Alors, j'ai frappé plusieurs portes et du coup... j'ai eu plusieurs lettres de soutien et j'ai fait la demande et j'ai eu une aide à la création. Pour moi, c'était incompréhensible. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas imaginer. Donc, ça faisait juste un an que j'étais en Belgique et j'ai réussi d'avoir une aide à la création et de faire un projet, d'avoir des subsides. Et tout ça, c'est grâce à elle et grâce au Théâtre de la Parole qui m'a soutenu, à Apollinaire aussi. Et quand on balade tous ces gens-là, et je suis vraiment content d'être ici parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient généreux et prêts à tout faire pour que je puisse réussir.
Et nous, on est contents aussi parce que Roxane et moi, on a vu le spectacle et on a beaucoup, beaucoup aimé.
Merci.
Mais tu peux peut-être d'ailleurs nous en dire un peu plus sur le... Donc là, on connaît les sources qui ont permis d'aider, mais ce spectacle, c'est un mélange de récits de vie, de contes traditionnels. Comment ça s'est mis en place?
Moi, j'ai demandé à mon grand-père de me parler de Jaffa et de la Palestine. C'était un projet pour l'université. Donc lui, il m'a tout raconté et à l'époque, on avait ce qu'on appelle un MP3, on peut enregistrer les vieux machins là. J'ai enregistré ce que mon grand-père m'a raconté, et c'était en 2004. Et 3 ans après, je suis devenu conteur, Et j'avais dans la tête l'idée de faire quelque chose avec mon grand-père. Mais malheureusement, il était décédé, mais j'avais toujours les enregistrements. Et j'ai sorti les enregistrements et j'ai fait un spectacle avec ce qu'il racontait. Ça, c'était en arabe. Mais quand je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte que parfois, je disais des trucs dans le spectacle que le public ne comprenait pas. Par exemple, dans mon spectacle en arabe, je dis « Mon grand-père a dit « J'ai un rêve, un seul rêve, c'est d'être enterré à Jaffa. » Et quand j'ai raconté ça chez moi, tout le monde comprenait, parce que c'est impossible d'aller à Jaffa, même s'il était mort. Donc, quand j'ai raconté ça ici, on dit « Pourquoi il n'est pas là ? Où est l'impossible ? Pourquoi c'est un rêve ? Pourquoi il ne peut pas aller à Jaffa ?» Et même, il ne peut pas être enterré. Donc, du coup, le défi, c'était comment expliquer ça à un public occidental, mais en même temps sans casser le récit. Parce que mon objectif, c'était de faire un récit de vie, que ce soit poétique et non pas politique ou un cours d'histoire. Voilà, donc j'ai alimenté un petit peu le spectacle par... quand je dis politique, je ne voulais pas que ce soit complètement politique, mais je ne peux pas parler de mon spectacle sans parler de la politique, sans expliquer comment ça s'est passé. Et donc du coup, j'ai alimenté le spectacle par des faits historiques pour que le public soit plus capable de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que ça a bien fonctionné. Et en même temps, on a décidé, bien sûr avec Sophie, de mettre des comptes du patrimoine qui soutient le spectacle. Et en même temps, ça pourrait être des moments de détente pour le public, pour digérer un petit peu ce qui s'est passé, mais en même temps... sans s'éloigner
du sujet.
Exactement. Et ce qui était difficile dans le spectacle est que c'était tellement relié que du coup, si je raconte la moitié sans continuer, je dis pourquoi il a dit ça. Mais si on continue le spectacle, on comprend que ce que je dis au début a un lien avec ce que je dis à la fin. C'est vraiment lié par un réseau un peu compliqué. Voilà.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Alvarius B. et le morceau Rock'n'Roll. nous voilà à nouveau avec Khaled. Voilà, je n'ose pas dire son nom.
Elnana.
Voilà, Elnana. Et donc, on en était à parler de ton spectacle Parfum de l'Orange, donc qui a été fait en collaboration avec Sophie Claire Failly, et donc qui mélange quelque part du récit de vie lié à ton oncle, c'est ça, non ?
Grand-père.
Ton grand-père, pardon, oui, oui. Et où tu mélanges aussi des contes libanais ou palestiniens, en fait, ou d'origine.
Du
Moyen-Orient en général, oui, c'est ça, oui. D'accord. Et moi, je voulais parler d'un autre spectacle que tu as fait, où vous avez poussé votre collaboration un peu plus loin avec Sophie Claire Failly. Et donc, vous avez fait un spectacle que vous présentez en duo, et avec un très beau titre qui est « L'amitié, ce beau périple ». Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, bah, comme je vous ai déjà dit, que Sophie m'a ouvert des portes, et une de ces portes, c'était maison de compte à Brabant-Wallon.
Brabant-Wallon.
Et donc, alors là-bas, on m'a proposé de faire un duo avec Sophie. Bah, ils ont dit à Sophie, tiens, tu parles de Khaled à tout le monde, bah, pourquoi tu ne fais pas un duo avec lui ? On m'a dit la même chose. Et donc, on s'est mis ensemble et l'idée, c'était de faire... d'organiser une soirée ensemble. Et moi, depuis que je suis arrivé en Belgique, je ne voulais pas jouer le rôle de réfugié parce que moi, je voulais juste être connu en tant que conteur, oui, et non pas réfugié. Voilà. Donc, c'est en cette raison que j'ai refusé plusieurs fois de jouer ce rôle, hein, les réfugiés en service, comment dire. Et donc, quand on a discuté avec Sophie, elle aussi, elle ne voulait pas faire la Belge et l'Orientale. Et donc, on a décidé de choisir un sujet qui nous relie tous les deux. Et on a choisi l'amitié. Parce que on est bien différents. On ne voulait pas faire l'homme, la femme, l'Orientale, l'Occidentale, la Belge, le réfugié. Mmh. Donc, on a parlé de l'amitié. Et dans le spectacle... À la place que je raconte des contes palestiniens, j'ai raconté une histoire belge, qu'on a un peu modifiée, mm-hmm, bien sûr. Et elle a raconté une histoire orientale qui parle aussi qui s'est passé en Palestine, à Ariha surtout. Et donc, elle a essayé de mettre de la culture palestinienne. Et moi, j'ai mis de la culture belge dans mon histoire. C'était un échange incroyable parce que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de mots, surtout bruxellois, les kipkap, les chuzel, les brol, lapin à la gueuse, tout ça. C'est, pour moi, je ne connaissais pas, donc j'ai appris tout ça. Et elle, de son côté, elle a appris la nourriture, les plats, le makloubé, le mansaf, tout ça. C'était vraiment intéressant. Mmh. Et on a essayé aussi de mettre de l'arabe dans ce spectacle, des chants, de la danse. Et ça a bien fonctionné.
Mais il tourne toujours, ce spectacle.
Oui, 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 ça tourne toujours, bien sûr.
On parlera un peu plus tard de l'agenda et des possibilités de vous voir. Moi, j'avais une question peut-être un peu indiscrète, mais je me demandais si Djihad ou Najwa avaient eu l'occasion de voir ton spectacle, parce que certainement ça les toucherait beaucoup. Je sais que Najwa vient de faire un spectacle sur Scheherazade, où elle parle aussi de cette sidération face à certains événements et comment les histoires peuvent aider à rester debout, justement.
Moi, depuis que je suis arrivé, même avant d'arriver en Belgique, je prenais toujours l'avis de Djihad. Donc, quand j'ai commencé la création du spectacle, je lui ai envoyé toujours comment ça avance, qu'est-ce que ça change. Et quand j'ai terminé le spectacle, je lui ai envoyé la totalité. Et lui, il m'a donné ses remarques et j'ai trouvé qu'il avait raison. Alors, j'ai modifié quelque chose. Donc, je suis toujours en contact avec Djihad. Par contre, j'ai pas eu la chance de voir Najwa, mais j'ai eu la chance de partager la scène avec Leïla ici en Belgique lors du festival Origine et aussi à la marche des conteurs qu'ils organisent en France. J'ai participé deux fois à la marche des conteurs et donc j'ai vu deux fois Leïla là-bas et bah, elle est géniale.
Tu racontes maintenant principalement en français. Est-ce que ça t'arrive encore parfois de raconter en arabe ?
Oui et non. je raconte toujours en français, mais dans toutes les histoires que je raconte, il y a des passages de l'arabe. Mmh. Parfois, je raconte sans traduire, et parfois, je traduis, ça dépend. Mais ce qui est, quand je ne traduis pas, ce n'est pas grave parce que j'ai eu ce retour. Parce que pour les Occidentaux, la langue arabe a une musicalité particulière. Donc, du coup, quand je raconte en arabe, ils sont attirés, ils sont accrochés, ils aiment bien. Et parfois, on me demande de raconter. Ça m'est arrivé une fois, on m'a demandé de raconter une histoire en arabe. Qu'en arabe. Et donc, j'ai raconté l'histoire et quand j'ai terminé, ils étaient comme ça, ébahis. Je dis, monsieur, est-ce que... à ce monsieur qui a demandé, est-ce que vous comprenez l'arabe ? Il dit, non, j'ai rien compris. Je dis, d'accord. Il dit, mais c'est tellement beau, j'ai adoré. Je dis, ok, d'accord. Et dans mon spectacle, Le Parfum de l'Orange, chaque fois quand j'ai commencé, j'avais pas d'énergie, c'était pas très très bien et donc une fois j'ai dit à Sophie, tiens, je vais commencer en arabe. Et quand j'ai commencé en arabe, tiens, c'est ça ce qu'il me faut. Et ça aussi c'est un retour que j'ai eu, que quand il me voit raconter en arabe, c'est pas la même chose. On me disait, tu as les yeux qui brillent, on voit que c'est différent, et du coup on aime bien te voir raconter en arabe et en français. Donc, je raconte, bien sûr, en français la majorité pour la compréhension. Mais de temps en temps, je dis des phrases en arabe ou des petites chansons en arabe. Et ça fait du bien. Une fois, j'étais invité pour un spectacle bilingue. Et l'objectif, c'était d'inviter deux publics, francophones et arabophones. Et quand je suis arrivé, malheureusement, il n'y avait qu'un public francophone. Voilà, donc c'était raté. Les arabophones ne sont pas venus. Donc je dis, ok, je vais raconter en français et quelques phrases en arabe, juste pour le plaisir, pour saisir la langue. Mais voilà, j'ai pas pu raconter en arabe, malheureusement, jusqu'à maintenant.
Mais pour toi aussi, je suppose que... Ça, d'ailleurs, tu l'as un peu dit. Oui, c'est ça, voilà. Donc, il y a quelque chose. Et moi, je suis toujours assez fasciné parce que moi, je ne peux raconter que dans une langue, le français. Et puis, c'est tout. Et je me dis, voilà, c'est quand même quelque chose où tu passes de ta langue maternelle à une autre langue. C'est pas évident, quoi.
Non, non, pas du tout. Et moi, depuis que j'ai commencé de raconter, tous mes spectacles... C'était basé sur l'interaction avec le public. Donc, j'ai raconté des blagues, j'improvisais, j'échangeais avec le public. Mais puisqu'en français, je suis quand même limité. Ça me bloque parfois de faire ce genre de choses avec le public ici. Parce que parfois, je ne trouve pas les mots. Parfois, je me sens un peu limité. Et ça me manque parce que c'est tout ce que j'ai fait pendant 15 ans lors de ma carrière en arabe. Mais je pense que quand je maîtrise parfaitement le français, j'aurai l'opportunité de rejouer ce rôle à nouveau.
Oui,
ici.
C'est ça. Oui.
Le français que tu avais appris à l'adolescence ou
Non, moi, après avoir eu sixième secondaire, j'ai commencé à apprendre le français et j'ai appris à l'Institut français. Après, j'ai fait l'école normale. Après, je suis allé plusieurs fois en France. J'ai fait du théâtre avec des bénévoles français Et au Liban, je dirigeais un centre, une ASBL, la Maison de l'amitié franco-palestinienne. Donc, on accueillait des bénévoles français qui travaillaient avec les enfants. Donc, tout ça m'a aidé à parler français. Mais après, j'ai arrêté. Et en 2010, je n'ai plus parlé français jusqu'à 2022. quand je suis arrivé en Belgique, j'ai retrouvé mon français. Mais ça prend du temps. Parfois, quand on ne parle pas une langue...
Oui, c'est vrai. Ouais, ce qu'on n'utilise pas, on le perd parfois. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, apparemment, ça revient quand même.
Oui, ça revient, mais j'étais en France. En Belgique aussi, on n'a pas exactement le même français. Il y a des mots que je ne connaissais pas. Et c'est un peu drôle. Quand je suis arrivé, j'avais des dollars, l'argent en dollars. Et j'étais à la grande place dans un bureau d'échange, je voulais changer. Et je lui dis, si je vous donne 100 dollars, vous me donnez combien d'euros? Il m'a dit 93. Je dis, ok, 100 dollars, vous me donnez combien d'euros? Il dit 93. Je dis, oh, mais il ne comprend pas, comment je vais dire? Donc je dis, monsieur, 100 dollars, euros. Et le pauvre, là, il a écrit sur un papier, ah oui, 93. Et ben, j'ai regardé, ma femme, j'ai dit, oh, ben, peut-être il ne parle pas très bien français. Et après, j'ai découvert l'histoire de 90, 70. C'est un des dizaines de mots que je ne connaissais pas à l'époque et que j'ai découvert ici.
Qu'est-ce qui a fait, ben, c'est peut-être trop personnel, si tu n'as pas envie de répondre, que tu as choisi la Belgique plutôt qu'un autre pays de...
Oui, pourquoi la Belgique?
C'est pour nous Belges, c'est toujours très mystérieux.
Oui, parce que parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on a, hein,
oui,
parce qu'on le vit. même si les Belges, enfin, avec beaucoup de Belges avec qui j'ai discuté, ils ne comprenaient pas ça, mais en fait, c'est un pays multiculturel. Riche de cultures différentes. Il y a la diversité, plusieurs langues, plusieurs communautés, et pour moi, ça fait de la richesse. Mmh. Et il y a une partie francophone, et mes enfants et moi parlions français. Et c'est un petit pays, et ça, c'est intéressant aussi. Et il n'y a pas beaucoup de racisme. Pour moi, c'était intéressant. Tout ça, c'était intéressant.
Mais ce mélange de plusieurs cultures dans un petit pays, je me dis peut-être, nous différencie peut-être parfois des Français, qui fait qu'on est beaucoup plus confronté à des cultures différentes et à vivre en cohabitation plus ou moins voilà, heureuse.
Oui.
On va peut-être passer un peu de musique. Et peut-être qu'après ça, si tu es d'accord, on te demanderait de nous raconter une petite histoire.
Oui, avec plaisir.
Alors, on va écouter Mohamed Adouane. Je ne sais pas si ma prononciation est juste. C'est un Palestinien qui vient de Rafah et la chanson en français veut dire « Si j'étais chanteur ». Voilà. Thank you.
تغني
va nous dire le musicien qu'on a écouté avec la bonne prononciation.
Il s'appelle Mounaim Adouane.
D'accord. Et on parlait justement pendant la pause musicale de, ben effectivement, que l'arabe que tu parles de au Liban et qui se parle aussi en Égypte et tout ça, c'est pas tout à fait le même arabe qu'on parle dans les pays du Maghreb.
En fait, chaque pays arabe a des dialectes différents. Mais on se comprend facilement au Moyen-Orient, les Jordaniens, Égyptiens, Libanais, Palestiniens, Syriens, Irakiens un petit peu. Mais plus on va vers l'Ouest, plus ça devient compliqué. Donc Tunisie, Maroc, Algérie, c'est un peu difficile parce que ils parlent ce qu'on appelle le Darija. Il y a aussi les Berbères ici, les Amazighs. Donc du coup c'est un peu difficile de se comprendre, et c'est triste, mais c'est la vérité. On se communique plus facilement en français qu'en arabe.
C'est ça, oui.
Sauf si on parle l'arabe classique, Là, ça, c'est la c'est même ça. Chose. Mmh. Ouais.
Et donc, comme je te l'avais proposé et comme tu nous l'avais promis, une petite histoire.
Une petite histoire. C'est une des histoires que j'ai mis dans le spectacle, donc vous avez déjà entendu, déjà écouté, mais vous faites semblant que comme si c'était la première fois.
Donc pour rappel, c'est le parfum de l'orange. Hein,
oui, dans voilà. Le spectacle, oui, le parfum de l'orange. C'est l'histoire d'un roi. Ce roi avait un vizir qui était optimiste, qui répétait tous les temps « la'allukhair, la'allukhair, la'allukhair ». Et la'allukhair, c'est une expression en arabe qui veut dire « il y a du bien dans le mal ». Et le roi lui dit « bah écoute, arrête de répéter cette phrase, ça m'énerve ». Et le vizir lui dit « Majesté, majesté, il faut savoir, il y a toujours du bien dans le mal ». Et puis un jour, le roi a reçu une épée, une grande épée décorée avec des pierres précieuses. Il a pris l'épée, il voulait la tester et tout d'un coup, il s'est coupé le doigt. Un bout de doigt est tombé par terre, le roi a crié, le vizir dit « Majesté, calmez-vous, calmez-vous, la'allukhair ». Mais qu'est-ce que tu dis, la'allukhair ? Je me suis coupé le doigt, je ne suis plus un roi complet, mais regarde le sang, ça coule partout. Et le vizir dit « Majesté, ne vous inquiétez pas, la'allukhair, tu continues à dire la'allukhair, garde, mettez-le en prison. » « Majesté, vous voulez m'envoyer en prison ? Pas de souci. » Mais va-t'en ! Le roi a organisé une chasse. Il a invité les princes et les autres vizirs et ils sont partis tous ensemble. Ils se sont éloignés du royaume. Ils se sont perdus dans la forêt. Ils ont été kidnappés par des cannibales. Et les cannibales, ils ont pris le premier vizir, ils l'ont déshabillé, ils l'ont soulevé, ils l'ont inspecté, ils l'ont jeté au feu pour le cuire. Et après, ils l'ont mangé. Ils avaient toujours faim, alors ils ont pris le deuxième vizir, ils l'ont déshabillé, ils l'ont inspecté, ils l'ont jeté au feu et ils l'ont mangé. Mais ils avaient toujours faim. Et ainsi de suite. Et quand c'était le tour du roi, ils se sont rendus compte que son doigt était coupé. Ils étaient dégoûtés. Et une personne à qui il manquait un morceau, c'était sûrement une personne infectée, une personne malade. Ils l'ont chassé. Le roi a couru, quand il est arrivé au château, il s'est dirigé vers la prison et il a tout raconté à son vizir. Et le vizir lui dit « Majesté, majesté, ça va, les halloukhers, mais qu'est-ce que tu dis, les halloukhers, ils ont mangé tout le monde !»« Mais majesté, pas vous, grâce à vous, votre doigt coupé. »« Ben oui, vizir, oui, tu as raison, moi je t'ai mis en prison, tu étais le plus sage. »« Ah ben non, majesté, au contraire !» Les halloukhair, mais où est le bien de te mettre en prison ? Majesté, si je n'étais pas en prison, j'aurais dû aller à la chasse avec vous. Et là-bas, j'aurais été mangé comme les autres vizirs. Donc, les halloukhair.
Eh bien, merci pour cette belle leçon de sagesse.
Oui, pour moi, cette expression m'accompagne toujours, toujours. Chaque fois quand je perds un truc ou ça m'arrive quelque chose, je dis « les halloukhair ». Et c'est toujours comme ça parce que j'ai quitté... Moi, j'étais conteur, j'avais une carrière de 15 ans au Liban, j'avais mon travail, je travaillais pour les Nations Unies au Liban. Et après, j'ai tout laissé et je suis arrivé en Belgique pour commencer des zéros. C'est ce que j'ai pensé. Parce que ce n'était pas des zéros, parce que j'avais toute cette expérience avec moi, j'avais les amis ici, et tout d'un coup, les halloukhair, parce que grâce à ce sacrifice que je fais, mes enfants, maintenant, j'ai un fils à l'université, j'ai les autres à l'école, on est en sécurité, et maintenant, ils peuvent rêver, ce qu'avant, ce n'était pas possible.
Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, si on a envie d'être au courant de ton agenda, de savoir quand les spectacles vont être joués, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce qu'il y a un site, un endroit de référence où on peut se plonger ?
Oui, il y a mon site internet, c'est Khaled, K-H-A-L-E-D-L-N-A-N-A, E-L-N-A-A-N-A-A. .com, c'est mon site internet, c'est mon prénom et mon nom. Il y a l'agenda sur mon site. Mais pour les dates, pour les prochaines dates, je peux dire que je suis invité au festival de chimie le 11 juillet, oui, le samedi, et pour raconter mon spectacle Le Parfum de l'Orange. Et si vous voulez, je serai en France aussi la première semaine de juillet pour une petite tournée. Je suis invité au festival 1, 2, 3 à Rouen. Je raconte à Genève aussi. Ben, je ne sais pas si vous avez des auditeurs
en Genève. Ce sera peut-être les vacances. en vacances,
si c'est
bouge.
Les vacances.
Ouais. Si quelqu'un a envie de venir, d'aller à Genève, je raconte Le Parfum de l'Orange.
On a peut-être des auditeurs qui nous écoutent à Genève.
Ben, j'espère. Et je raconte mon duo avec Sophie à Ruy, dans les Ardennes, le 30 août. Donc, vous pouvez aller dans les Ardennes, passer un week-end là-bas, regarder les spectacles.
Et puis, d'autres dates viendront quand même s'en rajouter.
Oui, bien
donc,
sûr, bien sûr.
Restez attentif à son calendrier. Parce que voilà, je trouve que... En tout cas, je n'ai pas encore vu celui avec Sophie, mais je pense que ça sera très bien aussi. Ben, nous, on était vraiment très heureux de t'avoir écouté, en tout cas. Voilà.
Je voulais poser une... de Chigny, c'est toujours très, très gai aussi. Donc,
ouais. J'avais une petite dernière question, c'était par rapport à une bibliographie. J'ai regardé chez moi dans mes livres de contes, il y a une personne qui revient souvent dans les recueils de contes au Liban. Elle s'appelle Praline Guépara. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu conseilles? Enfin voilà, on peut savoir un peu ton avis là-dessus par rapport à elle.
Praline Guépara, je l'ai rencontrée au Liban. Elle a un répertoire très 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 important, non seulement libanais mais du Moyen-Orient aussi. Mm-hmm. Donc oui, je vous conseille de lire ses livres. Ce qu'elle a collecté est très très intéressant.
Mmh. Ouais. D'accord, bien merci. Et on va se quitter, on va écouter encore un dernier morceau. Et bien encore un grand merci pour ta participation. Pour rappel, donc, n'oubliez pas le podcast « J'ai tant rêvé de toi », donc elle ne l'a pas dit, mais c'est réalisé par Roxane Calzorzi.
Et une équipe magnifique.
Et toute une équipe d'une dizaine de personnes. Et donc voilà, donc, qu'il y a toujours moyen d'écouter donc, sur Radio-là, c'est ça?
Oui.
Voilà. Et donc, rappel pour ton site, c'est donc
khaledelnana.com.
Voilà. Eh bien, merci. Et on va se quitter avec, excuse-moi, je vais encore massacrer, Dina Abdelwalet, qui est une musicienne d'origine tunisienne. des récits et des ondes.
Ультразвуковой вибратор суперсоник. Фантастика.